Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Comme chaque semaine dans Conversation, nous allons décrypter l'actualité géopolitique. La semaine dernière, nous parlions de la corrélation entre les crises géopolitiques et les crises économiques. Et un pays ne déroge pas à la règle, c'est la Chine. Alors, on a tendance à penser que la Chine va mal, Daniel Haber, économiquement. Est-ce le cas?
Oui, et non seulement on écrit qu'elle va mal, mais il y a derrière ça une pointe de jubilation. Vous voyez, à son tour, la Chine va mal. Donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir des difficultés. Eux aussi, cette grande puissance montante, a ses propres problèmes. Bon, je rappelle quand même que cette crise économique actuelle, c'est une crise que nous avons nous-mêmes provoquée. Ce n'est pas une crise, par exemple, du système économique comme ce fut le cas en 2008. C'était une crise du système libéral américain, trop financier, avec une absence de régulation qui nous a entraînés dans une série de catastrophes, surtout financières. Là, pas du tout. C'est l'accumulation de crises géopolitiques sérieuses. Alors, je les rappelle quand même, hein, c'est que quand Trump se retire de l'accord nucléaire, avec probablement de bonnes raisons, et Israël à l'époque s'était réjoui, il a quand même rétabli les sanctions contre l'Iran. Donc, c'est une perturbation des circuits économiques. Ensuite, Trump s'en est pris à la Chine elle-même avec des sanctions commerciales et des sanctions technologiques. Biden a renforcé encore ces sanctions. Donc, cette confrontation avec la Chine, elle a perturbé les réseaux de production et d'échange. On a eu le Covid qu'il faut jamais oublier parce qu'à partir du moment où on isole les gens, d'une part, et quand on isole les pays entre eux, parce que ça a été le cas, on s'est isolé. On transportait beaucoup moins les marchandises entre eux. On a quand même provoqué des grandes perturbations dans les systèmes économiques. Et puis, les agressions russes de 2014 et surtout de 2022 sur l'Ukraine, là, ont transformé les circuits mondiaux avec les sanctions et les contre-sanctions, et en particulier l'absence de fourniture de gaz et de pétrole russe à l'ensemble de l'Europe et surtout à l'Allemagne, qui a été un pays extrêmement touché par tout ça. Donc, vous voyez, c'est du lourd, tout ça. Et donc, voilà, on s'est nous-mêmes tiré des balles dans le pied. Et au fond, l'inflation, qui est un peu la caractéristique de cette crise économique, parce que c'est elle qui déclenche la hausse des taux d'intérêt et qui ralentit globalement la croissance, cette inflation, c'est le résultat direct de tout ce que je viens de décrire. Bon. Et la Chine, bon, qui fait partie du monde, qui est la plus grande puissance démographique et la deuxième puissance économique, elle a été forcément elle aussi touchée, d'autant plus qu'elle en a rajouté par rapport au reste du monde en s'isolant, pas au début. Elle a inventé le confinement, mais on s'est tous confinés. Mais au moment, dans les années 2021 et 2022, où on a tous tenté de desserrer le carcan du Covid, eux, ils se sont davantage encore isolés avec cette fameuse politique du zéro Covid. Donc, ils ont rajouté une petite couche. Et puis, surtout, il faut voir que il y a eu un grand moment politique en Chine qui a été la réélection de Xi Jinping en novembre dernier. Et pour préparer sa réélection, Xi Jinping a engagé au moins 18 mois avant une vaste campagne de purification, anticorruption, etc., qui a finalement abouti à paralyser complètement à la fois les fonctionnaires qui n'osent plus inviter, qui n'osent plus rencontrer leurs homologues parce qu'ils ont peur d'être pris dans des systèmes de discipline du Parti communiste, et puis les privés, vous vous en souvenez, les affaires Alibaba et autres, où ben, là aussi on a mis des freins au dynamisme des entrepreneurs privés. Donc ouais, les Chinois aussi se sont tirés dans les pieds. Donc tout ça explique que la Chine, évidemment, fasse partie de la crise.
Quelles sont les pistes d'exploitation pour inverser cette tendance? On parle de la voiture électrique, par exemple, où la Chine est le premier exportateur de voitures électriques.
Oui, alors c'est au fond, est-ce qu'on a raison de dire que la Chine va mal? C'est le sens de votre question. Et quand vous regardez les commentaires sur la Chine va mal, ils citent des chiffres globaux. Vous voyez, la croissance, on va avoir du mal à atteindre les 5% qui avaient été annoncés. Bon, entre nous, combien de pays seraient heureux d'avoir 4, même 4%, en particulier toute l'Europe. La croissance mondiale, c'est 3,5 en prévision. Donc, vous voyez, ils sont au-dessus quand même. Donc, ça va mal, mais ça ne va pas si mal. On parle évidemment d'exportation. Les exportations déclinent un petit peu du côté chinois, mais c'est parce que la demande mondiale est affaiblie par l'inflation. Et aussi, il faut voir qu'en contrepartie, les importations de gaz, de pétrole, etc., ont ralenti aussi. Et du coup, l'équilibre de la balance commerciale chinoise reste très bon. Il continue à engranger des excédents. Et on voit que le chômage augmente. Alors ça, c'est un vrai souci. Mais on sait aussi que avec le vieillissement démographique de la Chine, il y aura de moins en moins de jeunes en emploi. Donc, au fond, le chômage s'auto-résorbera par le manque de personnel. Et puis, comme le chômage n'est pas subventionné en Chine, eh bien, chacun trouve des parades, invente sa propre entreprise ou retourne chez ses parents. Il y en a qui retournent même dans les fermes. Bon, chacun trouve sa solution. Et puis, de toute façon, quand il y a beaucoup de chômage chez nous, ça se traduit par des crises sociales. Là-bas, il ne peut pas y en avoir parce qu'il n'y a pas d'expression démographique. Et puis, il y a cette crise immobilière dont on parle. Mais qui cache quand même ces arbres que cache la forêt, qui nous permet de rappeler que la Chine est devenue un pays de propriétaires. Le rêve de chaque Chinois, c'est d'être propriétaire de sa maison ou de son appartement. Donc, c'est un drôle de pays communiste entre nous, un pays de propriétaires. Donc, si vous voulez, oui, la Chine souffre, mais et quand on regarde un petit peu en détail votre question sur les voitures électriques, elle est très pertinente. Tout à coup, on s'aperçoit que les Chinois sont en train de devenir le leader mondial de la voiture de demain, qui sera la voiture électrique. Elle va passer devant l'Allemagne. En ce moment, il y a un salon de l'automobile qui n'est plus à Francfort, mais qui est à Munich. Les grandes vedettes sont les entreprises chinoises. Et elles sont capables de mettre des voitures électriques qui roulent bien et qui sont pas chères. Au point que Tesla, l'Américain, qui lui joue la carte chinoise, puisque sa plus grande usine est à Shanghai, il faut toujours le rappeler, lui-même va baisser ses prix et va continuer à accélérer le passage de la voiture du moteur à explosion à la voiture électrique. Mais avant d'être les maîtres de la voiture, les Chinois en électronique, ils ont des entreprises comme Lenovo, qui est le plus grand fabricant mondial d'ordinateurs portables. Ils ont Huawei, qui est le plus grand fabricant d'équipements de la 5G. Ils ont Xiaomi, qui est un formidable fabricant de portables. Il doit être le numéro un mondial, peut-être aujourd'hui, parce que les Chinois achètent leurs propres produits aujourd'hui alors qu'ils n'en voulaient pas. Dans l'électroménager, Haier et Hisense sont les deux leaders mondiaux. Et puis surtout, ces fameux GAFA qui montrent la domination américaine dans l'économie immatérielle, le seul pays au monde qui met en face des GAFA des entreprises de même taille et de même potentiel sont les Chinois. Les Européens ont été incapables de mettre quoi que ce soit face à Amazon, Microsoft, etc. Les Chinois, ils ont Alibaba, ils ont Baidu, ils ont Tencent avec son système WeChat, ils ont Didi, qui est le Uber local. Donc, ils ont des grandes firmes, des grandes plateformes, comme on dit. Et c'est le seul pays. Et puis, ils sont lancés dans la modernité absolue avec l'intelligence artificielle. C'est probablement le pays qui est le plus dynamique dans la mise en place de sociétés à base d'intelligence artificielle. Donc, quand on regarde le détail sectoriel, on voit que les Chinois, ils sont vraiment lancés dans la modernité à fond.
Il nous reste 2 minutes, Daniel Haber, pour conclure. Dans le contexte actuel, avec ce système communiste, la Chine peut-elle continuer sa réinvention?
Écoutez, elle a un côté positif et un côté négatif pour répondre à votre question. Le côté positif, c'est une vaste population très éduquée. Chaque année, les Chinois produisent des scientifiques de très haut niveau. Et donc, c'est impensable de penser qu'ils ne vont pas produire des bons ingénieurs qui vont trouver les parades. Huawei vient de trouver la possibilité d'avoir ses propres puces aussi bonnes que les Occidentaux, et ils s'en vantent. Et donc, voilà, ils sont capables de répondre coup pour coup à toutes les sanctions qu'on leur impose. Et ils mettent beaucoup d'argent dans la recherche-développement. Ils mettent plus d'argent dans la recherche-développement que dans l'armement. Alors que les Américains, c'est le contraire. Mais le côté négatif, au fond, c'est le grand homme, Xi Jinping. Pour arriver au pouvoir et pour rétablir la position du Parti communiste, il a mis une espèce d'étau sur la Chine et ça paralyse les énergies. Autant Deng Xiaoping en parlant, vous vous souvenez, en 92, qu'importe la couleur du chat, blanc ou noir, pourvu qu'il attrape les souris, c'est-à-dire peu importe le système politique, travaillons. Xi Jinping a remis le système politique au cœur, donc il a mis la politique avant l'économie et ça bride l'économie. Donc maintenant qu'il est réélu, et son classe est l'inconnu. Des mois qui viennent et des années qui viennent, est-ce que Xi Jinping va être capable de redonner confiance à son peuple en relibérant les énergies? Voilà les discussions qu'on aura à l'avenir pour voir si ça se réalise.
Eh bien, nous aurons évidemment l'occasion d'en parler dans Conversation tous les lundis matin sur Radio Judaïka. Merci, Daniel Haber.
Au revoir.